Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey.
Itinérance, une déambulation proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Pour parler avec les gens.
Bonjour, bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de l'Expo de Ouf. C'est la 12e édition du 26 août au 20 décembre 2024. Le vernissage a eu lieu le 7 septembre après une très longue, ce qu'on appelle chauffe de ouf, avec plein d'animations, un peu perturbée parce qu'il a plu, parce qu'il y a eu du vent, mais contre vents et marées, l'Expo de Ouf a lieu. Et je vous donne quelques chiffres déjà pour vous montrer combien est grand le succès de l'Expo de Ouf au Spot et dans le quartier Gambetta et Richelieu. La soirée de lancement avait regroupé 2000 personnes. Sur 2 mois de festival, on avait accueilli 5000 personnes et à l'année, à peu près 20 000 personnes qui viennent voir tous les lieux d'exposition, de concerts, d'événements, de conférences. Depuis 11 ans, le Spot a reçu 500 artistes. Il y a maintenant 180 fresques, puisque la réputation tout de même de l'Expo de Ouf, en plus des expositions, ce sont les fresques. C'est les artistes muraux, les fresques murales. Et en général, il y a 27 événements lors d'un festival, des projets participatifs, des visites guidées. Il faut prendre rendez-vous, bien évidemment. Tout cela géré par une cinquantaine de bénévoles. Et plus de 200 œuvres donc exposées, en plus des fresques. Alors l'Expo de Ouf, c'est la création imprévue de passionnés qui souhaitaient apporter de la couleur dans leur ville et leur quartier, c'est-à-dire Gambetta et Richelieu, tout en mettant en avant l'émergence artistique et les différents univers graphiques possibles en espace public. Il y a d'ailleurs une conférence sur l'espace public qui a lieu très bientôt. Reportez-vous au programme car il est très dense. Cette manifestation, l'Expo de Ouf, marque toujours la rentrée de septembre pour les Nîmois, après suivi un peu de la feria. C'est devenu un rendez-vous incontournable. Je vous disais 180 fresques en 12 ans. On va bientôt atteindre les 200. Donc des expositions à ciel ouvert, gratuites, disponibles toute l'année, le long des trottoirs, dans les petites rues et en mode donc street art tour. D'où l'intérêt des visites guidées. Mais l'Expo de Ouf, ce n'est pas que ça. C'est également une exposition collective qui réunit une trentaine d'artistes dans la galerie du Spot et une programmation riche de performances, décalées, des concerts, des spectacles de rue, des ateliers de médiation, afin d'être et de faire ensemble. Ce sont des grands moments de partage intense qui regroupent les passionnés, passionnés EES, les bénévoles, les artistes publics, les habitants et habitantes du quartier, afin d'atteindre le plus grand nombre. Alors j'ai oublié de dire que l'Expo de Ouf de cette année s'appelle « Prendre la température ». L'an passé, c'était « Oser rêver fort ». Bon, on peut faire les deux, hein, « Oser rêver fort » et « Prendre la température ». Alors pourquoi ce titre? Parce que tout devient de plus en plus chaud. La planète, les rapports sociétaux, l'état du secteur culturel en France, tout ce qui permet de faire humanité ensemble. Le temps de la transition est déjà derrière nous et il est urgent de prendre conscience de notre devenir, du futur. Donc l'heure est à l'action, faire évoluer, grandir les liens qui nous unissent. Bref, sortir de cette sensation que tout se disloque et part en morceaux dans une grande dégringolade. Alors, pour continuer dans cette expo de ouf, j'aimerais vous lire la charte éco-responsable, car le Spot affirme sa transition environnementale et il se rapproche, enfin le Spot se rapproche de plus en plus de ses valeurs vers lesquelles il souhaite depuis le début tendre. L'équipe interne, les coopérateurs, le public se côtoient et se rencontrent autour d'une sensibilité commune, le développement de l'art et de la culture. Le Spot aujourd'hui souhaite promouvoir des projets qui mettent en lumière la conscience collective liée aux enjeux environnementaux. La communauté scientifique le crie depuis des décennies, notre maison commune, notre planète, n'a jamais été aussi oubliée et maltraitée. Alors je vous lis quelques clauses de cette charte, qui c'est intéressant et ça peut s'appliquer à beaucoup de monde. Nous nous engageons, donc le Spot, à avancer vers, premièrement, une intention artistique, questionnant l'impact de nos pratiques sur le vivant. Une recherche de matériaux et d'outils de moins en moins nuisibles pour l'environnement et une amélioration de nos consommations énergétiques. Deuxièmement, une méthodologie quotidienne de la gestion des déchets, consommables, outillages, en intégrant la question du réemploi et du dépassement de l'abandon facile. Troisièmement, un catering raisonné quant à l'apport en protéines animales. Quatrièmement, des gestions de transport limitées et intelligentes, mutualisation des trajets longue distance. Cinquièmement, des méthodes de communication avec un usage justifié des matériaux à moindre impact. Sixièmement, une veille sur les bonnes pratiques menées par les professionnels de la culture. Et septièmement, une mobilisation de nos publics dans la pensée éco-responsable. Donc voilà comment tous ensemble, on repense nos actes de création vers des arts sensibles et responsables. Et nous allons, dans la seconde partie de cette émission, entendre Clémentine Chambon, une des artistes de cette exposition de Ouf. Et elle vous parlera aussi, elle, de recyclage, de seconde main, d'éco-responsabilité pour cette exposition Territoire Céleste. Alors la musique que vous venez d'écouter après cette introduction générale de l'expo de Ouf, c'était Anchor Point de Stevo Atambier que je ne connaissais pas et c'est choisi par Clémentine Chambon. Bonjour Clémentine.
Bonjour.
Musicien que vous ne connaissiez pas non plus.
Oui, mais ça une vous découverte du jour, mais ça m'a donné la pêche. Bon. Je me suis dit, c'est ce qu'il me faut comme énergie pour attaquer l'atelier.
Alors, on écoutera deux morceaux dans cette émission. Et vous animez donc, et je suis là cet après-midi, le 30 août, pour un atelier participatif, un atelier collectif, beaucoup d'animation pour les territoires célestes.
C'est ça.
Alors, on parlera de vous après. Là, on va parler de l'atelier. C'est la 15e fresque, enfin fresque, si on veut. C'est la 15e animation de l'Expo de Ouf et vous prévoyez donc 15 oiseaux.
C'est à peu près ce qu'on s'est dit. On verra, c'est 12, 15. Là, on en a déjà 6 qui ont été montés. On ne se met pas la pression parce qu'il faut que ça reste un plaisir. Donc ça, c'est le plus important. Ouais. Mais effectivement, il faut que ça... Idéalement, il faut que ce soit une animation colorée qui est quand même un peu un événement collectif. Donc on a besoin de nombre.
Alors, Territoire Céleste, c'est s'envoler, c'est partir loin des réalités, c'est quoi?
Oui, il y a de ça, effectivement, totalement. D'abord, c'était... En fait, quand le spot m'avait contacté, c'était pour me parler de cette période d'avant l'expo de Ouf qui est la chauffe de Ouf et on se disait il faut annoncer l'événement comme une fête et c'est vrai que souvent quand on annonce un événement une fête on met des petits fanions dans le ciel et donc en me renseignant sur les fanions j'avais regardé et en fait ce sont des insignes militaires à la base les fanions c'est pour affirmer des territoires ou des insignes militaires et évidemment j'étais pas convaincue par l'idée de parler de choses qui sont d'origine militaire je préférais parler d'oiseaux et effectivement dans mon travail il y a toujours une notion onirique je pense que c'est essentiel. Ouais, d'autant plus pour rassembler. En fait.
Alors là, c'est un atelier donc, participatif. Il y a beaucoup de jeunes. Hein, il y en a au moins une quinzaine, j'ai l'impression.
Oui, c'est
il y a
ça.
Des mamans aussi qui sont machines à coudre. Parce que
On ne fait pas son oiseau, en fait. Hein. Ce sont des étapes.
C'est très important. C'est très important, d'abord symboliquement, parce que les oiseaux n'appartiennent à personne, et donc il faut qu'ils puissent s'envoler. Et donc, vraiment, il y a cette notion de collectivité, de faire ensemble. Et aussi, c'est très important comme outil de fabrication. Et comme je suis designer, j'ai toujours ça en tête, la production, la fabrication. Et donc, ces oiseaux sont vraiment pensés par étapes de fabrication, et chaque personne va contribuer à un moment de l'étape de fabrication de ces oiseaux.
C'est pas frustrant pour eux, non ?
Je ne pense pas, je pense qu'il y a une fierté. Ils ont vu, d'ailleurs, parce que là, j'ai apporté certains qui ont été partiellement réalisés, et donc ils ont vu qu'ils avaient participé, qu'il y avait déjà des toiles qui avaient été peintes, qui étaient là. Et
mais c'est pas égoïste, hein, c'est ça. On
oui,
est ensemble.
Je pense pas que ce soit frustrant, parce qu'en plus ces oiseaux vont être accrochés dans le ciel, et donc on va pas les rapporter chez soi. C'est pas l'idée.
Alors la dimension moyenne des oiseaux, que vous aviez montré était très grand. Hein,
oui, alors ils sont effectivement, c'est à peu près 1m50, 1m60 de haut, parce qu'ils ont une grande traîne, et l'envergure, on est sur 70-80 cm de large.
Donc ils seront dans la rue pendant combien de temps ?
J'ai envie de dire tant qu'ils dureront. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une première, donc on ne sait pas exactement comment ils vont résister. Après, je ne suis pas du tout inquiète, parce qu'ils ont une grande légèreté. Donc plus c'est léger, finalement, même si ça a l'air fragile, moins c'est fragile, ils vont voler.
C'est comme les cerfs-volants.
Exactement, ce sont des cerfs-volants.
Et puis, ils changeront peut-être de couleur au fil des
c'est
semaines.
C'est possible.
Donc ça peut donner une,
ça
autre,
peut donner quelque
une
chose.
Autre impression. Alors, ces ateliers... Il y a d'abord, alors j'ai vu, il y a plein de tissus, il y a plein de rubans, il y a plein de peintures. Vous êtes nombreux à organiser ça. La première étape, c'est quoi ? Quand un jeune arrive. Alors, ils viennent du centre Pollan, je crois.
Genre, c'est Centre Social Émile Jourdan.
Émile Jourdan, voilà, oui.
Donc, les étapes peuvent être menées. Alors, il n'y a pas d'ordre, il y a quand même effectivement un ordre dans le sens où, à la fin, il y a l'assemblage en couture, et pour ça, il faut que toutes les étapes préliminaires soient faites. Mais effectivement, les premières consignes, c'est d'abord la peinture. On va travailler à partir de textiles qui sont recyclés, qui ont été. Qui sont fournis par la ressourcerie. Ça va être des anciennes doublures déchirées, des morceaux qui étaient à peine finis, enfin voilà, des choses comme ça qui ont une première vie.
Oui,
ça nous intéresse. C'est très important. Et des fonds de peinture aussi de l'Expo de Ouf. Donc on a vraiment, en termes de matériel, on est le plus respectueux possible. Et donc les premières étapes, c'est de les briefer sur les parties du corps de l'oiseau. Donc il y a une première partie qui s'appelle le plumage. On va la faire dans un tissu extrêmement léger parce qu'il faut qu'il puisse voler et ne pas être alourdi, ce plumage. Et on va la travailler au lavis. Donc la peinture très très diluée à l'eau, comme de l'aquarelle.
On les voit là dans
exactement.
L'auditorium.
Donc c'est des peintures un peu, vous voyez, c'est un effet tacheté. Moi, je leur parle de mouvement quand je leur parle de cette étape-là. On n'est pas en train de décrire quelque chose, on n'est pas descriptif sur l'oiseau, mais on doit véhiculer l'idée de l'envol. Quand même.
Pensez quand ça va voler. Ils choisissent les couleurs ?
Oui, ils choisissent toutes les couleurs, maximum 3 couleurs pour que ça reste harmonieux. Parce que c'est vrai qu'après, sinon, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleurs.
Ensuite,
on a le corps de l'oiseau. Là, ça va être une peinture plus affirmée qui va rappeler le rythme des plumages. Et après, on a deux pièces décoratives qui sont le dos et la pièce de devant, qui peuvent avoir des fleurs, par exemple, des poivres et des petites taches, parce qu'un oiseau a toujours des éléments de couleur incroyables.
Oui, quand il déploie ses ailes, c'est autre chose.
Il y a des surprises, exactement. On a le visage de l'oiseau, et puis on a aussi toute une série de rubans qui vont servir à structurer cet oiseau, en fait, à renforcer sa structure, et aussi à faire les traîner dans le ciel. Et le montage, qui est l'étape de couture la plus complexe, c'est celle où on va mettre un jonc de rotin qui a été trempé dans l'eau préalablement, et qui sert en fait à tenir la pièce.
C'est comme un cerf-volant, quoi.
C'est vraiment un cerf-volant low-tech.
Mais bon, avec ce thème des territoires célestes, est-ce qu'on peut parler de... Là, on est sur la terrasse du spot avec... Est-ce qu'on est dans l'abstraction ? Est-ce qu'on est dans le figuratif ? Est-ce qu'on est dans...
Oui, c'est un entre-deux. C'est-à-dire
l'onirique, en fait.
C'est l'onirique, mais il ne s'agit pas de faire exactement un oiseau, parce qu'il faudrait vraiment une grande maîtrise, et ce n'est pas notre cas. Il faut évoquer des parties de l'oiseau. Et puis, ces oiseaux aussi, ils sont un peu monstrueux, un peu étonnants. Moi, je trouve ça intéressant, parce qu'en fait, dans la nature, on est toujours très surpris par les animaux. La question de monstruosité, de toute façon, ça se...
Relatif,
c'est totalement relatif. Donc, non, je pense que c'est l'expression surtout ce que je recherche. Et ça, c'est quelque chose que je recherche aussi dans mon travail, la spontanéité et l'expressivité.
L'expressivité. Pour faire quelque chose tout de même de construit, de rigoureux et en même temps très imaginatif. Donc, c'est en fait la base de votre travail. On va parler de vous après dans votre chemin personnel. Mais c'est ce que vous essayez en fait de donner à ces jeunes.
Oui, tout à fait. Ce que j'essaie de transmettre dans ces moments-là, déjà, c'est l'enthousiasme, parce que je trouve ça essentiel pour faire de la création.
Il faut la curiosité.
Voilà, il faut avoir envie, il faut s'amuser, il faut s'exprimer. Donc la peinture, c'est une excellente étape pour s'exprimer. Et puis, il y a des temps. C'est comme avec les tout-petits, finalement. Il y a des temps de dynamique, donc c'est la peinture. Et puis, il y a des temps où on va se poser, on va se concentrer. Donc là, c'est la découpe de patron, la découpe de ruban. C'est des temps beaucoup plus concentrés. Mais ça permet aussi d'avoir une certaine fierté, d'avoir réussi à bien couper le patron, d'avoir réussi à faire une belle peinture. Et donc, toutes ces étapes vont permettre de prendre différentes postures, en fait.
Puis, c'est intéressant de les voir travailler, parce qu'on voit toujours la personnalité de ces jeunes, hein, en fait. Les plus expansifs, les plus réservés. C'est pas toujours les plus dynamiques qui sont, entre guillemets, les meilleurs. Donc,
de toute façon, cette rotation, elle est intéressante, parce que ça permet de... Ce qui est chouette, c'est que chaque personne, c'est une étape.
Oui.
Et qui se trouve peut-être dedans ou pas, mais comme ça, il aura testé. Moi, je leur dis toujours ça. Je leur dis, il n'y a aucun risque dans la création à prendre risques, en fait. Ouais. C'est l'inverse qui est beaucoup plus dangereux. Donc, il faut aller, il faut tester. Il faut tester, et puis si c'est pas grave,
il n'y a
pas
de... qu'est-ce que c'est qu'un raté? On ne sait pas, mais il peut être utilisable de toute façon. De toute façon, ils seront à une certaine hauteur. Ce qu'on voit, c'est plus le tableau dans le
temps. C'est exactement ça. À 7 mètres de haut, si le point de couture n'est pas extraordinaire, on ne le verra pas. Ça détend tout le monde.
Vous disiez que c'était le deuxième atelier, vous en avez déjà eu un, et aujourd'hui, il y en a un deuxième de 3 heures. Ce sont les mêmes jeunes ou...
Alors, le premier atelier a été fait dans la résidence de l'Encloré.
Oui.
Donc, on a eu aussi des personnes, des résidents qui étaient avec nous. Là, c'est un atelier tout public où il y a aussi les jeunes qui sont revenus. Ça, c'est super, on est très contents de les revoir. Et
ils sont obligés de rester les 3 heures?
Non, c'est en autonomie.
C'est en autonomie.
Oui, tout à fait. Et, aussi ouvert à d'autres publics. Et puis, demain après-midi, on va être place fléchée avec grosse animation, DJ set, ça va être un moment très collectif.
Oui, la chauffe de ouf.
Ouais, c'est ça, il va faire aussi très chaud.
Et puis, c'est sûr que là, on est à ils annoncent un épisode Cévenol la semaine prochaine avec beaucoup de pluie, mais est-ce que ça va toucher Nîmes? Je ne sais pas. Et puis, cette expo de ouf, elle dure pendant 3 mois, donc on a le temps de participer. Vous, c'est tout de même un côté plus éphémère que les fresques, hein, parce qu'on a parlé aussi des fresques dans d'autres émissions. La fresque, vous, c'est pas votre...
Culturellement, non, parce que c'est vrai que je viens du design. Moi, c'est vrai, j'ai une culture design, j'ai même une personnalité design, même si ça ne se voit pas à l'œil nu, dans le sens où je suis assez atypique dans le design. Mmh. Et au fond, les oiseaux correspondent vraiment. Quand en fait, on s'est vraiment sur la question de l'outil de production.
Ouais.
Et c'est ça l'entrée par rapport à mon travail. C'est-à-dire qu'on va travailler sur comment on va fabriquer quelque chose avec un certain nombre de personnes qui n'ont pas à la base de savoir-faire, sans savoir-faire prérequis. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant. Et comment on peut, à partir en fait, de différentes étapes qui sont, elles, très construite et très, comment dire, très affirmée, finalement avoir une œuvre intéressante. Quoi.
Ben, on va en parler plus longuement, mais on réécoute un autre extrait d'Anchor Point pour garder encore la forme, mais je sens que vous l'avez, on n'a pas besoin de la musique.
Thank you.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous continuons cet entretien avec Clémentine Chambon. Merci de votre enthousiasme et de votre partage. Je pense que tout artiste, tout créateur n'a pas cette ambition de... Enfin, cette ambition, cette envie de partage. Pour vous, cette notion de partage, elle vous est venue tout de suite ou c'est à l'après un cheminement personnel? Parce qu'il faut se trouver déjà en tant qu'artiste.
Oui.
Donc
oui,
comment c'est venu chez vous, je vous dirais?
C'est vrai qu'effectivement, alors moi j'ai toujours quand même fait pas mal d'enseignements. C'est-à-dire que je suis intervenue dans des écoles de design assez tôt dans mon parcours. En 2007, je suis intervenue pendant 7 ans à l'ANSI. Après, je suis intervenue à l'école Boulle, puisqu'à l'époque, j'étais à Paris. Aujourd'hui, je continue à faire des workshops avec la CPGE à Nîmes. Donc, il y a toujours eu ça. Cette transmission m'a toujours intéressée.
La pédagogie.
La pédagogie, oui. Parce que, je sais pas, c'est quelque chose...
C'est comme ça.
C'est comme ça. Maintenant, plus je vieillis, je dirais, plus je m'intéresse, effectivement... à la création comme levier pour faire des changements sociaux, écologiques. Enfin, ça prend de plus en plus d'espace dans mon travail, de place. Et,
c'est pour ça que l'Expo de Ouf vous a sollicité.
Mais
vous
oui, êtes je nimoise. Pense. Oui, je suis nimoise, tout à fait. En fait, on s'était rencontrés après le projet Shelter, qui a été vraiment marquant pour moi, qui était un projet très engagé sur l'environnement et qui s'est situé sur le littoral, etc. Et après ce projet-là, j'ai été bouleversée. Je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir continuer à faire du design comme avant? Donc j'aime faire du design comme avant, mais j'aime aussi beaucoup sortir de ces terrains-là et aller vers des choses beaucoup plus ou sociales ou écologiques. Ça m'intéresse.
Qu'est-ce que vous appelez le design comme avant?
Alors, comment dire, le parcours d'un designer plus, peut-être plus typique, même s'il n'en a pas, parce que chacun crée son propre parcours, c'est peut-être de travailler avec de l'édition, de faire du mobilier, de faire des tapis, de faire des... ce que je fais aussi et que j'aime faire.
Tout de même un côté, enfin, vous me dites si je me trompe, mais un côté un peu luxe, tout de même un objet rare, tout de même,
oui,
un objet unique. Hein.
Souvent, il y a de la rareté, effectivement, parce que pour
donc
pouvoir...
Donc, la cherté, automatiquement.
Oui, aussi, bien sûr. Et voilà, dans des pièces qui sont... Alors, c'est pas forcément des pièces uniques, mais... on va être avec des éditeurs assez luxueux qui vont prendre des risques aussi, qui vont avoir l'audace de faire des choses peut-être plus affirmées d'un point de vue du style. Après, j'ai travaillé aussi par exemple avec Laurent Merlin, donc là ça a été un joli challenge parce que c'était la création de miroirs pour tous, donc avec des coûts le plus réduits possible, avec une éthique écologique la plus... Voilà, en essayant d'affirmer ça en tout cas le plus possible, donc ça c'était encore un projet super intéressant.
Vous aimez vous lancer des défis ou c'est les hasards qui vous amènent comme ça?
Il y a la notion de hasard, en fait, on cherche le hasard, c'est-à-dire
bien
on essaie
sûr,
de l'attirer, on va le provoquer. Mais oui, j'aime
le
lancer des défis parce que je déteste m'ennuyer, donc j'aime bien passer de quelque chose à autre chose.
Vous ennuyez vite?
Pour l'instant, je m'ennuie pas.
Non, mais la notion, je veux dire, quand vous faites quelque chose, ça prend... Qu'est-ce que c'est vite? C'est un an, deux
ans,
trois ans?
Disons que je ne voudrais pas me répéter. Je détesterais me répéter. Je trouve que c'est très ennuyeux dans la création de se répéter.
Facile, entre guillemets.
Bah oui, mais ça devient stérile, en fait. Oui, monotone. Alors que je trouve... qu'essayer des choses,
enfin,
voilà, mon ambition c'est ça, c'est d'essayer de faire quelque chose qui soit personnel et nouveau. Après, évidemment, il y a toujours des références, mais...
Et vous alimentez, vous vous nourrissez de l'actualité, de la vie, des spectacles,
de
la nature.
Alors, de l'art contemporain, de l'art de manière générale, d'expressions artistiques différentes. Mais aussi, de toutes les expos qui sont dans mon corps de métier, dans le champ du design et de la création, et de la vie, et effectivement de ce qui nous bouleverse dans la vie. Et il y a des choses cette année qui nous ont traversées, qui nous ont bouleversées, et qui se trouvent là, dans cet atelier oiseau, transformé. Enfin, je veux dire, l'envie de rêver, l'envie de s'élever dans le ciel tous ensemble, je pense que ça ne vient pas de nulle part. L'année, entre l'inflation, les différentes guerres, c'est une année dure. Et donc faire des choses ensemble, aujourd'hui, c'est vraiment important, je pense, de plus en plus.
Donc pour vous, un artiste, il est vraiment ancré dans la vie, en fait, dans la société, je dirais que l'artiste est une éponge ou au contraire, il est un transmetteur, un messager
Oui, c'est entre deux. Après, je ne voudrais surtout pas avoir une valeur dogmatique.
Non,
chacun fait sa pratique comme il l'entend.
Je comprends, mais chacun En fait, c'est votre mode d'expression. Il y en a
c'est un mode d'expression. Voilà. Oui, c'est un langage complètement. C'est une façon de parler. Quoi. Ouais.
Et cet atelier, il s'inscrit tout à fait dans votre démarche, dans votre évolution, c'est une parenthèse ou au contraire?
Non, c'est pas une parenthèse. Effectivement, le textile, c'est un médium que j'ai déjà beaucoup travaillé, en fait. parce que j'ai fait des collections textiles, même c'est drôle, je regardais dans les tissus que j'ai récupérés, il y en a qui viennent de fournisseurs pour qui j'ai fait des collections textiles. Donc je connais bien l'industrie textile, sa fabrication, sa réalisation. Donc j'ai fait aussi des lampes en textile très précieuses, en dentelle, etc. Et en même temps, j'ai repris la peinture après le confinement parce qu'il y avait, je pense, cette envie de lâcher prise, quoi. Et aussi de rapidité, alors que le rythme du design sont des rythmes lents. Il y a de la fabrication qui va durer minimum 6 mois, 9 mois, 1 an. Et donc, dans la peinture, il y a une immédiateté qui me séduit énormément. Et puis, la profondeur de la couleur. Donc là, il est complètement inscrit par cet aspect-là. Après, il est nouveau dans le côté accrochage dans une rue.
Ouais.
Ça, c'est nouveau pour
moi.
Vous
ne l'avez jamais fait.
Non, je ne l'ai jamais fait. Donc, je suis très contente. Je suis très impatiente. Les côtés ateliers, effectivement, c'est quelque chose que je fais de plus en plus et qui me plaît parce que ce sont toujours des rencontres humaines très enrichissantes et bouleversantes même parfois. Donc là, c'est assez, pour moi. Voilà, c'est dans une continuité, je dirais.
Donc vous serez présente lors de cette expo de ouf par moment, parce que j'ai l'impression, enfin, si j'ai bien compris, que vous menez plusieurs projets tout de même en même temps, ou vous pouvez pas vous ne faire qu'une chose.
Oui, tout à fait.
J'ai bien compris. Donc je vais vous laisser retourner auprès de ces adolescents, puis de ces mamans très patientes qui attendent les machines à coudre. C'est un côté, ça m'a fait rire quand je suis arrivée, parce qu'il y avait l'effervescence des jeunes, puis ces quatre mamans très dignes, très, très calmes, qui attendaient.
Oui, tout à fait.
Et puis cette agitation, donc on est au début de l'expo de ouf, et j'espère que ça va bien marcher, et je pense que oui.
Ah oui, je pense que ça va être une super édition.
C'est une référence. Merci à vous Clémentine, et puis à une autre fois.
Merci beaucoup.
Avec les gens.